Chapitre 12. La Pâque et la dernière plaie. L'endurcissement du Pharaon. Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera aller d'ici. Lorsqu'il vous laissera aller complètement, il vous chassera tout à fait d'ici. » Chapitre 11, verset 1. Il fallait encore un coup plus pesant à ce monarque endurci et à son pays, pour l'obliger à laisser aller Israël, objet de la grâce souveraine de l'Éternel. C'est en vain que l'homme s'endurcit et s'élève contre Dieu, car certainement le jour vient où Dieu abat jusque dans la poussière l'esprit hautain. Il est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel 4, verset 37. L'homme peut s'imaginer qu'il est quelque chose, élever haut la tête dans son orgueil, comme s'il était son propre maître, mais combien peu il connaît sa condition et son caractère véritable. En fait, il est manipulé par Satan, qui cherche toujours à mettre obstacle au dessein de Dieu. L'intelligence la plus brillante, le génie le plus élevé, l'énergie la plus indomptable, à moins qu'il ne soit sous le gouvernement immédiat de l'Esprit de Dieu, ne sont que des instruments dans la main de Satan pour exécuter ses desseins de méchanceté. Nul homme n'est son propre maître. Il est gouverné ou par Christ ou par Satan. Le roi d'Égypte pouvait se croire libre. Cependant, Satan était derrière son trône. Et parce que le Pharaon s'était appliqué à résister aux desseins de Dieu, il fut judiciairement livré à l'influence endurcissante et aveuglante du maître qu'il s'était choisi. Ceci nous explique une expression qui revient fréquemment dans les premiers chapitres de ce livre. « Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon » chapitre 9, verset 12, 10, verset 20 et 27, 11, verset 10, 14, verset 8. Il ne faut pas chercher à éviter le sens clair et complet de cette déclaration solennelle. Si l'homme repousse le témoignage divin, il est judiciairement livré à un endurcissement et à un aveuglement de cœur. Dieu l'abandonne à lui-même. Alors Satan arrive et l'entraîne, tête baissée, dans la perdition. Il y avait bien assez de lumière pour faire voir au Pharaon l'extravagance et la folie de la voie qu'il poursuivait, en cherchant à retenir ce que Dieu lui avait commandé de laisser aller. Mais la véritable inclination de son cœur était d'agir contre Dieu. C'est pourquoi Dieu l'abandonna à lui-même et fit de lui un monument pour la manifestation de sa gloire dans toute la terre. Chapitre 9, verset 16. Dieu donne quelquefois aux hommes ce qui est en rapport avec le vrai penchant de leur cœur. S'ils ne veulent pas la vérité quand elle leur est présentée, ils auront certainement le mensonge. S'ils ne veulent pas Christ, ils auront Satan. S'ils ne veulent pas le ciel, ils auront l'enfer. Il y a une grande différence dans la manière dont Dieu agit envers les païens et envers ceux qui rejettent l'Évangile. Quant au premier, il est dit « Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé. » Romains 1, verset 28. Mais quant au second, la parole enseigne que, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Les païens refusent le témoignage de la création et sont, en conséquence, abandonnés à eux-mêmes. Ceux qui rejettent l'Évangile repoussent la lumière éclatante qui resplendit de la croix et, à cause de cela, une énergie d'erreur leur sera bientôt envoyée de la part de Dieu. Ceci est bien sérieux pour le temps où nous sommes, dans lequel il y a tant de lumière et de professions de christianisme. Le croyant simple de cœur justifiera Dieu dans ses dispensations les plus insondables, et même s'il ne peut pas répondre d'une manière satisfaisante aux questions difficiles des esprits incrédules, il trouve son parfait repos dans cette parole. Le juge de toute la terre, ne fera-t-il pas ce qui est juste ? Genèse 18, verset 25. La destruction des premiers-nés. Toutefois, c'est la prérogative de Dieu de faire échec à tous les raisonnements orgueilleux de l'homme. Il peut imprimer la sentence de mort sur tout. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Hébreux 9, verset 27. Personne ne peut échapper à cette sentence. L'homme peut chercher à couvrir son humiliation par divers moyens, à cacher son passage par la vallée de l'ombre de la mort de la manière la plus héroïque, à dorer d'une fausse lumière le lit de mort, à revêtir la cérémonie funéraire et la tombe de pompe, d'apparat et de gloire. Il peut faire tout cela, mais la mort reste la mort, et il ne peut la faire être autre chose que ce qu'elle est, savoir les gages du péché. Romains 6, verset 23. Ces pensées nous sont suggérées par les premiers mots du chapitre 11. Je ferai venir encore une plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte. Parole solennelle. C'était l'arrêt de mort prononcé sur tous les premiers-nés d'Égypte. Et Moïse dit, « Ainsi dit l'Éternel, sur le minuit je sortirai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né dans le pays d'Égypte mourra, depuis le premier-né du Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et tout premier-né des bêtes. Et il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, comme il n'y en a pas eu et il n'y en aura jamais de semblable. » Chapitre 11, versets 4 à 6. Telle devait être la plaie finale, la mort dans chaque maison. Mais, contre tous les fils d'Israël, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, pas un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez que l'Éternel distingue entre les Égyptiens et Israël. Verset 7. Il n'y a que le Seigneur qui puisse distinguer entre ceux qui sont siens et ceux qui ne le sont pas. Il ne nous appartient pas de dire à qui que ce soit « Tiens-toi loin, ne me touche pas, car je suis saint vis-à-vis de toi. » Ésaïe 65, verset 5. Ce langage est celui d'un pharisien. Mais quand Dieu distingue, c'est notre devoir de nous enquérir en quoi cela consiste. Et dans le cas qui nous occupe, nous voyons que c'était une question de vie et de mort. Dieu tire une ligne de démarcation. De l'un des côtés de cette ligne est la vie, de l'autre, la mort. Plusieurs des premiers-nés de l'Égypte ont pu être aussi beaux que ceux d'Israël, ou même plus, mais Israël était l'objet des desseins d'amour d'un Dieu rédempteur, et ses premiers-nés auraient la vie, comme nous allons le voir, par le sang de l'agneau. Voilà quelle était la bienheureuse position d'Israël, tandis que, dans toute l'Égypte, depuis le monarque sur le trône jusqu'à la servante occupée à moudre, on ne pourrait entendre que le cri de douleur provoqué par le coup terrible de la verge de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu abat l'esprit hautain de l'homme. Moïse ajoute, « Et tous ces tiens serviteurs descendront vers moi et se prosterneront devant moi, disant, « Sors, toi et tout le peuple qui est à tes pieds, et après cela, je sortirai. » Chapitre 11, verset 8. Dieu accomplira ses propres desseins de miséricorde, et la confusion de face sera la part de tous ceux qui s'y opposent. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeurera toujours. Il a frappé l'Égypte en ses premiers-nés, car sa bonté demeurera toujours, et a fait sortir Israël du milieu d'eux, car sa bonté demeurera toujours, à main forte et à bras étendus, car sa bonté demeurera toujours. Psaume 136, versets 1 et 10 à 12. Le commencement des mois. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Chapitre 12, versets 1 et 2. Il y a ici un changement très intéressant dans l'ordre du temps. L'année civile suivait son cours ordinaire lorsque l'Éternel l'interrompit en vue de son peuple. Il lui apprit ainsi qu'il devait commencer une ère nouvelle avec lui. L'histoire antérieure d'Israël ne devait plus compter désormais. La rédemption devait constituer le premier pas dans la vie réelle. Ceci nous apprend une vérité bien simple, c'est que la connaissance d'un salut parfait et d'une paix stable par le sang précieux de l'agneau place l'homme dans un nouvel ordre de choses et devient pour lui le commencement de sa vie avec Dieu. Jusque-là, selon les termes de l'Écriture, Il est mort dans ses fautes et dans ses péchés, étranger à la vie de Dieu. Éphésiens 2, verset 1, 4, verset 18. Son histoire précédente n'est qu'un espace vide, même si, dans l'estimation de l'homme, elle a été pleine d'activité. Tout ce qui captive l'attention de l'homme du monde, les honneurs, les richesses, les plaisirs, les attraits de la vie, toutes ces choses, considérées à la lumière du jugement de Dieu, ne sont au fond qu'un néant. Qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Jean 3, verset 36. Les hommes parlent de jouir de la vie quand ils se lancent dans la société ou quand ils voyagent de côté et d'autre pour voir tout ce qui peut se voir, mais ils oublient que le seul moyen réel et véritable de voir la vie, c'est de croire au Fils de Dieu. Les hommes s'imaginent que la vraie vie prend fin dès qu'on devient chrétien, de fait et en vérité, tandis que la parole de Dieu nous apprend que ce n'est qu'alors que nous pouvons voir la vie et goûter le vrai bonheur. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, verset 12. Et encore, bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Psaume 32, verset 1. Nous ne pouvons avoir la vie et le bonheur qu'en Christ seul. En dehors de lui, tout est mort et misère selon le jugement de Dieu, quelles que soient d'ailleurs les apparences. C'est quand le voile de l'incrédulité est ôté de dessus le cœur, c'est quand nous pouvons voir, des yeux de la foi, l'agneau immolé portant sur la croix le fardeau de notre culpabilité, que nous entrons dans le sentier de la vie et que nous participons à la félicité divine. Cette vie commence à la croix et se poursuit jusque dans une éternité de gloire. La joie qu'elle apporte devient chaque jour plus profonde et plus pure, se rattache chaque jour davantage à Dieu et repose davantage sur Christ jusqu'à ce que nous atteignions sa perfection dans la présence de Dieu et de l'agneau. Chercher la vie et le bonheur par un autre moyen est vain. En dehors de Christ, tout est vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste 2, verset 17. En lui seul se trouvent les joies véritables et éternelles. Et ce n'est que quand nous commençons à vivre en lui, de lui, avec lui et pour lui, que nous commençons à vivre véritablement. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le temps passé auprès des fours à briques et près des pots de chair est comme non avenu, sauf que le souvenir de ce temps devrait toujours servir à ranimer et à rendre plus profond le sentiment de ce que la grâce divine a accompli. L'agneau de la Pâque. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, « Au dixième jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. » Versets 3 à 6. Nous avons ici la rédemption du peuple fondée sur le sang de l'agneau, selon le dessein éternel de Dieu. Et nous apprenons ce qui communique à cette rédemption toute sa stabilité. La rédemption n'a pas été en Dieu une pensée seconde. Avant que le monde fût, ou Satan, ou le péché, avant que la voix de Dieu eût appelé les mondes à l'existence, ses grands desseins d'amour existaient par-devers lui. Tous les privilèges, toutes les bénédictions et les gloires de la création reposaient sur l'obéissance d'une créature, et du moment que celle-ci faillit, tout fut perdu. Mais la tentative que fit Satan de troubler et de corrompre la création n'a fait qu'ouvrir la voie à la manifestation des desseins plus profonds de Dieu dans la rédemption. Cette merveilleuse vérité nous est présentée en type dans le fait que l'agneau était tenu en garde depuis le dixième jour jusqu'au quatorzième jour du mois. Cet agneau, incontestablement, était la figure de Christ, ainsi que l'enseignent expressément les passages suivants. « Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. » 1 Corinthiens 5, verset 7. Et, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseigné par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous. 1 Pierre 1, versets 18 à 20. Tous les desseins de Dieu, de toute éternité, avaient rapport à Christ, et aucun effort de l'ennemi n'a jamais pu y porter atteinte. Bien au contraire, tous ces efforts n'ont fait que contribuer à la manifestation de la sagesse insondable et de la fermeté immuable des conseils de Dieu. Si l'agneau sans défaut et sans tache a été préconnu dès avant la fondation du monde, assurément, la rédemption doit avoir été dans les pensées de Dieu avant la fondation du monde. Le Dieu bienheureux n'eut pas besoin de combiner un plan au moyen duquel il put remédier au mal terrible que l'ennemi avait introduit dans la création. Non, il n'eut qu'à faire sortir du trésor de ses merveilleux conseils la vérité concernant l'agneau sans tache qui avait été préconnu de toute éternité et qui devait être manifesté dans les derniers temps pour nous. Il n'y avait pas besoin du sang de l'agneau dans la création, lorsqu'elle sortit toute jeune et fraîche des mains du Créateur, manifestant, dans chacune de ses parties, l'empreinte admirable de la main divine, les preuves infaillibles de sa puissance éternelle et de sa divinité. Romains 1, verset 20. Mais quand, par un seul homme, Romains 5, verset 12, le péché eut été introduit dans le monde, alors fut révélée la pensée plus profonde et plus glorieuse de la rédemption par le sang de l'agneau. Cette merveilleuse vérité apparut d'abord à travers l'épais nuage qui entourait nos premiers parents, alors qu'ils sortirent du jardin d'Éden. Ses rayons commencèrent à briller dans les types de la loi de Moïse, et elle resplendit sur le monde dans tout son éclat quand vint ici-bas Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16. Ainsi, l'agneau pris le dixième jour et tenu en garde jusqu'au quatorzième jour nous présente Christ, préconnu de Dieu de toute éternité, mais manifesté pour nous dans le temps. Le dessein éternel de Dieu en Christ devient le fondement de la paix du croyant. L'expression « préconnu dès avant la fondation du monde » nous reporte en arrière dans les profondeurs insondables de l'éternité et nous montre Dieu formant ses plans d'amour et de rédemption et les faisant reposer sur le sang expiatoire de son agneau. Christ fut toujours la pensée première de Dieu. Et dès que Dieu commence à parler ou à agir, il en prend occasion de présenter en figure celui qui occupait la place la plus élevée dans ses conseils et ses affections. En lisant les Écritures, nous voyons que chaque cérémonie, chaque ordonnance et chaque sacrifice annonçaient à l'avance l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, versets 29 et 36. L'agneau pascal, avec toutes les circonstances qui s'y rattachent, forme l'un des types les plus instructifs de l'Écriture. Nous avons affaire, dans l'interprétation de ce chapitre 12 de l'Exode, avec une assemblée et un sacrifice. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Verset 6. Il n'est pas fait mention d'un grand nombre de familles avec plusieurs agneaux, ce qui d'ailleurs est bien vrai en soi, mais d'une seule assemblée et d'un seul agneau. Chaque famille n'était que l'expression locale de l'assemblée tout entière, réunie autour de l'agneau, comme il en est de l'Église de Christ tout entière, rassemblée par le Saint-Esprit au nom de Jésus, de laquelle chaque assemblée particulière, où qu'elle se réunisse, est l'expression locale. Le sang de l'agneau. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qu'il soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur. Versets 7 à 9. L'agneau pascal se présente à nous sous deux aspects différents, comme fondement de la paix et comme centre d'unité. Le sang sur le linteau assurait la paix à Israël. « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Verset 13. Il ne fallait rien d'autre que l'application du sang d'aspersion pour qu'on puisse jouir d'une paix assurée relativement à l'ange destructeur. La mort avait son œuvre à faire dans toutes les maisons du pays d'Égypte. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Hébreux 9, verset 27. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, trouva pour Israël un substitut sans tache, sur lequel la sentence de mort fut exécutée. Les exigences de la gloire de Dieu et le besoin d'Israël trouvèrent ainsi dans une seule et même chose, dans le sang de l'agneau, ce qui les satisfaisait. Le sang au dehors disait que tout était parfaitement réglé, et par conséquent une parfaite paix régnait au dedans. L'ombre d'un doute dans le cœur d'un Israélite aurait été un déshonneur jeté sur le divin fondement de la paix, sur le sang de propitiation. Chacun de ceux qui étaient à l'intérieur de la porte aspergée de sang devait savoir que, s'il avait dû recevoir la juste rétribution de ses péchés, l'épée du destructeur l'aurait bien certainement frappé. Mais l'agneau avait subi à sa place le traitement qu'il avait mérité. C'était là le solide fondement de sa paix. Le jugement qui lui revenait était tombé sur une victime préordonnée de Dieu. Et croyant cela, il pouvait manger en paix dans l'intérieur de la maison. Un doute aurait fait l'Éternel menteur, car il avait dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous ». Cela suffisait. Il ne s'agissait pas de mérite personnel. Le moi était absolument hors de question. Tous ceux qui étaient abrités par le sang étaient en sûreté. Ils n'étaient pas seulement en état d'être sauvés. Ils étaient sauvés. Ils n'en étaient pas à espérer qu'ils seraient sauvés, ou à prier qu'ils le soient. Ils savaient, comme un fait avéré, qu'ils l'étaient, sur l'autorité de la parole de Dieu. En outre, ils n'étaient pas en partie sauvés et en partie exposés au jugement. Ils étaient complètement sauvés. Le sang de l'agneau et la parole de l'Éternel constituaient le fondement de la paix d'Israël dans cette nuit terrible, dans laquelle la mort frappa les premiers-nés de l'Égypte. Si un seul cheveu d'une tête israélite avait pu être touché, cela aurait démenti la parole de l'Éternel et déclaré inutile le sang de l'agneau. Il est très important d'avoir une intelligence claire de ce qui constitue le fondement de la paix du pécheur dans la présence de Dieu. On associe tant de choses à l'œuvre accomplie par Christ que bien des âmes sont plongées dans l'incertitude et l'obscurité quant à leur acceptation. Elles ne discernent pas le caractère absolu de la rédemption par le sang de Christ dans son application à elles-mêmes. Elles semblent ignorer que le plein pardon des péchés repose sur le grand fait qu'une expiation parfaite a été accomplie, fait qui a été attesté par la résurrection de Christ d'entre les morts. Elles savent qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvées que le sang de la croix, mais les démons le savent aussi, et cela ne leur profite de rien. Ce qu'elles ne savent pas, et ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que nous sommes sauvés. L'Israélite ne savait pas seulement que le sang était une sauvegarde, il savait que lui était en sécurité. Et pourquoi? Était-ce en vertu de quelque chose qu'il aurait fait, ou senti, ou pensé? Nullement, mais parce que Dieu avait dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous ». Il se reposait sur le témoignage de Dieu. Il croyait ce que Dieu avait dit, parce que Dieu l'avait dit. Ils étaient de ceux qui ont scellé que Dieu est vrai. Jean 3, verset 33. Remarquez, cher lecteur, que ce n'était pas sur ses propres pensées, sur ses sentiments ou sur ses expériences relativement au sang que l'Israélite se reposait. Cela aurait été se reposer sur un fondement de sable. Ses pensées et ses sentiments pouvaient être profonds ou superficiels, mais profonds ou superficiels, il n'avait rien à faire avec le fondement de sa paix. Dieu n'avait pas dit « Quand vous verrez le sang et que vous l'estimerez comme il doit être estimé, je passerai par-dessus vous ». Cela aurait suffi pour plonger l'Israélite dans un profond désespoir, car il est impossible à l'esprit humain de jamais apprécier suffisamment le précieux sang de l'agneau. Ce qui donnait la paix, c'était le fait que l'œil de l'Éternel reposait sur le sang, et l'Israélite savait que lui l'estimait à sa valeur. « Je verrai le sang ». C'est là ce qui tranquillisait le cœur. Le sang était en dehors, sur le linteau de la porte, et l'Israélite qui était en dedans ne pouvait pas le voir. Mais Dieu voyait le sang, et cela suffisait parfaitement. L'œuvre de Christ pour nous. L'application de ce qui précède à la question de la paix d'un pécheur est bien plus simple. Le Seigneur Jésus, ayant répandu son sang précieux, en expiation parfaite pour le péché, a porté ce sang dans la présence de Dieu. Et le témoignage de Dieu assure aux pécheurs que toutes choses ont été réglées en sa faveur. Elles ont été réglées non par l'estimation que le pécheur fait du sang, mais par le sang lui-même. Il a une si haute valeur aux yeux de Dieu que, grâce à lui, Dieu peut avec justice pardonner tout péché et recevoir le pécheur comme parfaitement juste en Christ. Comment un homme pourrait-il jouir d'une paix solide si sa paix dépendait de l'estimation qu'il fait du sang? L'estimation la plus haute que l'esprit humain puisse faire du sang sera toujours bien en dessous de sa divine valeur. Si donc notre paix devait dépendre de notre juste appréciation de ce qu'il vaut, nous ne pourrions pas plus jouir d'une paix solide et assurée que si nous cherchions cette paix par des œuvres de loi. Romains 9, verset 32, Galates 2, verset 16 et 3, verset 10. Le fondement de notre paix doit être dans le sang seul, autrement nous n'aurons jamais la paix. Mêler à ce sang l'estimation que nous en faisons, c'est renverser tout l'édifice du christianisme, aussi effectivement que si nous conduisions le pécheur au pied du Sinaï et que nous le placions sous une alliance d'œuvres. Ou bien le sacrifice de Christ est suffisant, ou bien il ne l'est pas. S'il est suffisant, pourquoi ces doutes et ces craintes? Tous ceux qui doutent de leur pardon parfait et éternel nient, pour autant qu'il s'agit d'eux, l'accomplissement et la perfection du sacrifice de Christ. Mais il y a un grand nombre de personnes qui reculeraient à l'idée de mettre en doute, ouvertement et de propos délibérés, l'efficace du sacrifice de Christ, et qui néanmoins ne jouissent pas d'une paix assurée. Ces personnes-là se disent convaincues que le sang de Christ suffit parfaitement aux besoins du pécheur, si seulement elles étaient sûres d'avoir une part dans ce sang, si seulement elles avaient la véritable foi. Beaucoup d'âmes pieuses se trouvent dans cette triste condition. Elles sont occupées de leur foi et de leurs sentiments, au lieu d'être occupées du sang de Christ et de la parole de Dieu. En d'autres termes, elles regardent au-dedans d'elles-mêmes, au lieu de regarder en dehors à Christ. Ce n'est pas là la foi, et par conséquent, elles n'ont point de paix. L'Israélite abrité sous l'aspersion du sang pourrait enseigner à ses âmes une leçon très opportune. Il n'était pas sauvé par la valeur qu'il attachait lui-même au sang, mais simplement par le sang. Sans doute, il appréciait le sang, comme aussi il a dû avoir des pensées à l'égard de ce sang. Cependant, Dieu n'avait pas dit « Quand je verrai l'appréciation que vous faites du sang, je passerai par-dessus vous », mais « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous ». Le sang, avec sa valeur et sa divine efficacité, était placé devant Israël. Et si le peuple avait voulu placer ne serait-ce qu'un morceau de pain sans levain à côté du sang comme fondement de sécurité, il aurait fait Dieu menteur et nié la parfaite suffisance de son remède. L'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous sommes toujours portés à chercher en nous-mêmes, ou dans ce qui vient de nous, quelque chose qui puisse constituer, avec le sang de Christ, le fondement de notre paix. Il existe sur ce point vital, chez beaucoup de chrétiens, un bien fâcheux manque de clarté et d'intelligence, comme le démontrent les doutes et les craintes dont un si grand nombre d'entre eux sont tourmentés. Nous sommes enclins à regarder le fruit de l'Esprit en nous plutôt que l'œuvre de Christ pour nous comme le fondement de notre paix. Nous aurons l'occasion de voir bientôt quelle est la place qu'occupe l'œuvre du Saint-Esprit dans le christianisme, mais jamais cette œuvre n'est présentée dans l'Écriture comme étant ce sur quoi notre paix repose. Le Saint-Esprit n'a pas fait la paix, mais Christ l'a faite. Il n'est pas dit que le Saint-Esprit soit notre paix, mais il est dit que Christ est notre paix. Dieu n'a pas envoyé prêcher la paix par le Saint-Esprit, mais la paix par Jésus-Christ. Voir Acte 10, verset 36, Éphésiens 2, verset 14 et 17, Colossiens 1, verset 20. On ne peut saisir avec trop de simplicité cette distinction importante. C'est par le sang de Christ que nous avons la paix, une justification parfaite, la justice divine. C'est lui qui purifie la conscience, lui qui nous introduit dans le lieu très saint, qui fait que Dieu est juste en recevant le pécheur qui croit, et lui qui nous donne droit à toutes les joies, à tous les honneurs, à toutes les gloires du ciel. Voyez Romains 3, versets 24 à 26 et 5, verset 9, Éphésiens 2, verset 13 à 18, Colossiens 1, verset 20 à 22, Hébreux 9, verset 14 et 10, verset 19, 1 Pierre 1, verset 19 et 2, verset 24, 1 Jean 1, verset 7, Apocalypse 7, verset 14 à 17. On ne pensera pas, je l'espère bien, qu'en cherchant à exposer quelle est, devant Dieu, la valeur du précieux sang de Christ, je veuille écrire un seul mot qui amoindrisse l'importance des opérations de l'Esprit. À Dieu ne plaise. Le Saint-Esprit révèle Christ, nous fait connaître Christ, nous fait jouir de lui, et nous nourrit de lui. Il rend témoignage à Christ, il prend les choses de Christ et nous les communique. C'est lui qui est la puissance de la communion, le sceau, le témoin, les arts, l'onction. Les opérations de l'Esprit sont absolument essentielles. Sans lui, nous ne pouvons ni voir, ni entendre, ni sentir, ni expérimenter, ni manifester quoi que ce soit de Christ, ni en jouir. La doctrine des opérations de l'Esprit est clairement exposée dans l'Écriture. Elle est comprise et reçue par tout chrétien fidèle et bien enseigné. Cependant, et malgré tout cela, l'œuvre de l'Esprit n'est pas le fondement de la paix. Si elle l'était, nous ne pourrions pas avoir de paix solide et assurée avant la venue de Christ, puisque l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs ne sera achevée qu'alors. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26. Il travaille pour nous faire parvenir à la stature à laquelle nous avons été destinés, savoir à une parfaite conformité à l'image du Fils. Il est l'unique auteur de tout bon désir, de toute aspiration sainte, de toute affection pure, de toute expérience divine, de toute conviction saine. Mais il est clair que son œuvre en nous ne sera complète que lorsque nous aurons quitté la scène présente de ce monde pour prendre place avec Christ dans la gloire, tout comme le serviteur d'Abraham n'eut achevé son œuvre, pour ce qui concernait Rebecca, que lorsqu'il l'eut présentée à Isaac. Il n'en est pas de même de l'œuvre de Christ pour nous. Elle est absolument et éternellement complète. Christ a pu dire « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean 17, verset 4. Et encore « C'est accompli. » Jean 19, verset 30. Mais le Saint-Esprit ne peut pas dire encore qu'il ait fini son œuvre. Comme le vrai vicaire de Christ sur la terre, il travaille encore au milieu des diverses influences hostiles qui environnent la sphère de ses opérations. Il travaille dans le cœur des enfants de Dieu pour les faire parvenir, d'une manière expérimentale et pratique, à la hauteur du modèle à l'image duquel ils doivent être rendus conformes. Mais jamais il ne conduit une âme à faire dépendre sa paix de l'œuvre qu'il opère en elle. La mission du Saint-Esprit est de parler de Jésus. Il ne parle pas de lui-même. « Il prendra de ce qui est à moi, dit Christ, et vous l'annoncera. » Jean 16, verset 14. Si donc ce n'est que par l'enseignement de l'Esprit que l'on peut comprendre le vrai fondement de la paix, et si l'Esprit ne parle jamais de lui-même, il est évident qu'il ne peut présenter que l'œuvre de Christ comme le fondement sur lequel l'âme doit s'appuyer pour toujours. Bien plus, c'est en vertu de cette œuvre que l'Esprit fait sa demeure et accomplit ses merveilleuses opérations dans le cœur du croyant. La mort de Christ, seul fondement de notre salut. Ainsi l'agneau pascal, comme fondement de la paix d'Israël, est un type magnifique de Christ, comme fondement de la paix du croyant. Il n'y avait rien à ajouter au sang sur le linteau, il n'y a rien non plus à ajouter au sang sur le propitiatoire. Le pain sans levain et les herbes amères étaient nécessaires, mais ils ne formaient pas le fondement de la paix, pas même en partie. Ils étaient pour l'intérieur de la maison, ils constituaient les signes caractéristiques de la communion dans cette maison, mais le sang de l'agneau était le fondement de tout. Il sauvait les Israélites de la mort et les introduisait dans une scène de vie, de lumière et de paix. Il formait le lien entre Dieu et son peuple racheté. Ce peuple, en relation avec Dieu sur le fondement d'une rédemption accomplie, avait certaines responsabilités, mais ces responsabilités ne formaient pas le lien. Elles ne faisaient qu'en découler. Je désire aussi rappeler à mon lecteur que la vie d'obéissance de Christ n'est pas présentée dans l'Écriture comme ce qui nous procure le pardon. C'est la mort de Christ sur la croix qui ouvrit un libre cours à l'amour. Si Christ avait continué jusqu'à maintenant à parcourir les villes d'Israël en faisant du bien, Acte 10, verset 38, le voile du temple serait encore entier et fermerait à l'adorateur le libre accès à Dieu. Ce fut la mort de Christ qui déchira ce voile depuis le haut jusqu'en bas. Marc 15, verset 38. C'est par ses meurtrissures et non par sa vie d'obéissance que nous avons la guérison. Ésaïe 53, verset 5, 1 Pierre 2, verset 24. Et ses meurtrissures, c'est sur la croix qu'il les a endurées, nulle part ailleurs. Les paroles qu'il a lui-même prononcées au cours de sa vie suffisent parfaitement pour nous faire comprendre le sens du passage où il dit « J'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli ?» Luc 12, verset 50. À quoi se rapporte cette déclaration, si ce n'est à sa mort sur la croix? C'était là le baptême qui ouvrait à son amour un chemin par lequel il pouvait, avec justice, couler librement vers les coupables. Puis il dit encore « À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. » Jean 12, verset 24. Il était, lui, ce précieux grain de blé. Il serait pour toujours resté seul si, par sa mort sur la croix, il n'avait écarté tout ce qui aurait pu empêcher l'union de son peuple avec lui dans la résurrection. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mon lecteur ne peut pas méditer avec trop de soin ce sujet infiniment sérieux et important. Il y a, relativement à cette question, deux points dont il faut toujours se souvenir. D'abord, qu'il n'y a pas d'union possible avec Christ autrement que dans la résurrection, et ensuite, que Christ n'a souffert pour les péchés que sur la croix. Il ne faut pas nous imaginer que Christ nous ait unis à lui-même par l'incarnation. Cela était impossible. Comment notre chair de péché aurait-elle pu être unie à lui de cette manière? Il fallait que le corps du péché soit détruit par la mort. Il fallait que le péché soit ôté. La gloire de Dieu l'exigeait, et que toute la puissance de l'ennemi soit abolie. Comment tout cela pouvait-il être accompli, si ce n'est par la soumission de l'agneau de Dieu, précieux et sans tache, à la mort de la croix? Il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Hébreux 2, verset 10. Voici, je chasse des démons, et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis consommé. Luc 13, verset 32. Les expressions « consomma » et « consommé » dans les passages ci-dessus ne se rapportent pas à Christ dans sa propre personne d'une manière abstraite, car il était parfait de toute éternité comme Fils de Dieu, et quant à son humanité, il était également absolument parfait. Mais, comme chef du salut, comme amenant plusieurs fils à la gloire, comme portant beaucoup de fruits, comme s'associant à un peuple racheté, il fallait qu'il atteigne le troisième jour pour être consommé. Il descendit seul dans le puits de la destruction et le bourbier fangeux. Mais aussitôt, il posa son pied sur le roc de la résurrection et s'associa à plusieurs fils. Psaume 40, verset 1 à 3. Il combattit seul dans la bataille, mais en puissant vainqueur, il distribue à ceux qui l'entourent le riche butin de sa victoire, afin que nous le recueillions et que nous en jouissions pour toujours. Il ne faut pas non plus envisager la croix de Christ comme n'étant qu'une étape dans une vie de souffrance expiatoire pour le péché. La croix fut le grand et seul acte de souffrance expiatoire pour le péché. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, verset 24. Il ne les a portés nulle part ailleurs. Il ne les a portés ni dans la crèche, ni au désert, ni dans le jardin de Gethsémané, mais uniquement sur le bois. Il n'eut jamais rien à faire avec le péché, sous ce rapport-là, sauf à la croix. Et sur la croix, il baissa la tête et laissa sa vie sous le poids des péchés accumulés de son peuple. Jamais non plus, il ne souffrit de la main de Dieu ailleurs que sur la croix. Mais là, Dieu lui cacha sa face, parce qu'il était fait péché. De Corinthiens 5, verset 21. Cette succession de pensées et les divers passages dont elles découlent aideront peut-être le lecteur à saisir plus complètement la puissance divine de ces paroles. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il fallait, sans aucun doute, que l'agneau soit sans tache, pour pouvoir supporter le saint regard de l'Éternel. Mais si le sang n'avait pas été répandu, l'Éternel n'aurait pas pu passer par-dessus le peuple. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Hébreux 9, verset 22. Nous méditerons ce sujet, Dieu voulant, d'une manière plus complète dans les types du Lévitique. Il mérite l'attention sérieuse de tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Un centre de communion pour Israël. Envisageons maintenant la Pâque sous son second point de vue, c'est-à-dire comme le centre autour duquel l'Assemblée était réunie, dans une paisible, sainte et heureuse communion. Israël sauvé par le sang était une chose, et Israël mangeant l'agneau en était une autre. Les Israélites n'étaient sauvés que par le sang, mais l'objet autour duquel ils étaient rassemblés était évidemment l'agneau rôti. Ceci n'est nullement une distinction arbitraire. Le sang de l'agneau constitue à la fois le fondement de notre relation avec Dieu et de notre relation les uns avec les autres. Étant lavés dans ce sang, nous sommes amenés à Dieu et les uns aux autres. En dehors de l'expiation parfaite de Christ, il ne peut y avoir aucune communion, soit avec Dieu, soit avec l'Assemblée de Dieu. Toutefois, c'est autour d'un Christ vivant dans le ciel que les croyants sont rassemblés par le Saint-Esprit. C'est à un chef vivant que nous sommes unis, à une pierre vivante que nous sommes venus. 1 Pierre 2, verset 4. Il est notre centre. Ayant trouvé la paix par son sang, nous le reconnaissons comme notre grand centre de rassemblement et comme le lien qui nous unit. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Le Saint-Esprit seul est celui qui rassemble. Christ lui-même est le seul objet autour duquel nous sommes rassemblés. Et cette assemblée ainsi réunie doit être caractérisée par la sainteté, afin que le Seigneur notre Dieu puisse habiter au milieu de nous. Le Saint-Esprit ne peut rassembler qu'autour de Christ. Il ne peut pas rassembler autour d'un système, d'un nom, d'une doctrine ou d'une ordonnance. Il rassemble autour d'une personne, et cette personne est Christ glorifié dans le ciel. Ce fait doit communiquer un caractère particulier à l'Assemblée de Dieu. Les hommes peuvent s'associer sur un fondement, autour d'un centre, ou en vue d'un objet de leur choix, mais quand c'est le Saint-Esprit qui associe, il le fait sur le fondement d'une rédemption accomplie, autour de la personne de Christ, et afin d'édifier pour Dieu une sainte habitation. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, Éphésiens 2, versets 21 et 22, 1 Pierre 2, versets 4 et 5. L'ordonnance de la Pâque. Nous avons à considérer maintenant en détail les principes que nous présente la fête de la Pâque. L'Assemblée d'Israël, abritée sous le sang, devait être organisée par l'Éternel d'une manière digne de lui-même. Pour mettre à l'abri du jugement, comme nous l'avons déjà vu, il ne fallait rien d'autre que le sang. Mais dans la communion qui découlait de la sécurité que procurait le sang, il fallait d'autres choses, et des choses qui ne pouvaient être négligées impunément. Et d'abord, nous lisons, « Ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi-cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur. » Versets 8 et 9. L'agneau autour duquel la congrégation était rassemblée et qu'il mangeait était un agneau rôti, un agneau qui avait subi l'action du feu. En ceci nous voyons notre Pâque Christ, 1 Corinthiens 5, verset 7, s'exposant lui-même à l'action du feu de la sainteté et du jugement de Dieu, qui trouvèrent en lui un objet parfait. Il a pu dire « Tu as sondé mon cœur, tu m'as visité de nuit, tu m'as éprouvé au creuset, tu n'as rien trouvé. Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. » Psaume 17, verset 3. Tout en lui a été parfait, la tête, les jambes et l'intérieur, c'est-à-dire le siège de son intelligence, sa marche extérieure, avec toutes les affections dont elle découlait. Tout fut soumis à l'épreuve du feu, et tout fut trouvé entièrement parfait. La manière dont on devait rôtir l'agneau est très significative. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi-cuit ou qui ait été cuit dans l'eau. Si l'agneau avait été mangé de cette manière, il n'aurait pas été l'expression de la grande vérité qu'il devait préfigurer, savoir que notre agneau pascal a dû endurer sur la croix le feu de la juste colère de Dieu. De plus, l'agneau devait être mangé. Nous ne sommes pas seulement sous la protection éternelle du sang de l'agneau, mais par la foi nous nous nourrissons de la personne de l'agneau. Nous courons le danger d'être en défaut à cet égard. Nous sommes portés à nous contenter d'être sauvés par l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, sans nous maintenir dans une vraie communion avec lui. Son cœur aimant ne peut pas se contenter de cela. Il nous a approchés de lui afin que nous puissions jouir de lui, nous nourrir de lui et nous réjouir en lui. Il se présente à nous comme celui qui a enduré, dans toute sa rigueur, le feu intense de la colère de Dieu, afin d'être, sous ce caractère merveilleux, l'aliment de nos âmes rachetées. Des pains sans levain. Mais comment cet agneau devait-il être mangé? Avec des pains sans levain et des herbes amères. Le levain est partout, dans l'Écriture, l'emblème du mal. Jamais, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, il ne représente quoi que ce soit de pur, de saint ou de bon. Ainsi, dans ce chapitre, la fête des pains sans levain est le type de la séparation pratique d'avec le mal. Cette séparation résulte du fait que nous sommes lavés de nos péchés dans le sang de l'agneau, et elle est l'accompagnement nécessaire de la communion à ses souffrances. Il n'y a que le pain dépourvu de levain qui soit compatible avec l'agneau rôti. La plus petite quantité de ce qui était le type même du mal aurait détruit le caractère moral de l'ordonnance tout entière. Comment pourrions-nous unir un mal quelconque à notre communion avec un Christ souffrant? Tous ceux qui saisissent, par la puissance du Saint-Esprit, la signification de la croix, ôteront certainement aussi, par cette même puissance, tout le vin du milieu d'eux. Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. La fête chrétienne dont il est question dans ce passage est ce qui, dans le christianisme, correspond à la fête des pains sans levain. Cette dernière durait 7 jours, et l'Église collectivement, aussi bien que le chrétien individuellement, sont appelés à marcher dans la sainteté pratique pendant les 7 jours, c'est-à-dire la période entière, de leur course ici-bas, et cela comme résultat direct du fait qu'ils sont lavés dans le sang et ont communion avec les souffrances de Christ. Ce n'était pas afin d'être sauvé que l'Israélite ôtait le levain, mais parce qu'il était sauvé. Et s'il négligeait d'ôter le levain, cette faute, toute grave qu'elle fût, ne mettait pas en question sa sécurité par le sang, mais simplement sa communion avec l'autel et avec l'assemblée. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car quiconque mangera de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, étranger ou israélite de naissance. Verset 19. Le retranchement de l'assemblée, pour un israélite, répond précisément à la suspension de la communion pour un chrétien, quand il se permet quelque chose qui est contraire à la sainteté de la présence divine. Dieu ne peut pas tolérer le mal. D'ailleurs, une seule pensée impure interrompt la communion de l'âme avec Dieu. Et aussi longtemps que la souillure contractée par cette pensée n'a pas été ôtée par la confession, il est impossible que la communion soit rétablie. Voyez 1 Jean 1, verset 5 à 10, psaume 32, verset 3 à 5. Le chrétien dont le cœur est droit se réjouit de ce qu'il en est ainsi. Il peut toujours célébrer la mémoire de la sainteté de Dieu. Psaume 30, verset 4 et 97, verset 12. Il ne voudrait pas, même s'il le pouvait, diminuer tant soit peu la mesure de cette sainteté. C'est pour lui une joie que de marcher dans la compagnie de celui qui ne peut pas supporter le contact avec la plus petite parcelle de levain. Dieu soit béni. Nous savons que rien ne peut rompre le lien qui unit à lui le vrai croyant. Nous sommes sauvés par l'Éternel, non d'un salut conditionnel, mais d'un salut éternel. Ésaïe 45, verset 17. Mais le salut et la communion sont deux choses distinctes. Il y a beaucoup de personnes sauvées qui ne le savent pas, et il y en a beaucoup aussi qui n'en jouissent pas. Il est impossible que je sois heureux sous l'abri d'un linteau aspergé de sang s'il y a du levain dans ma demeure. Bien qu'elle ne soit pas le fondement de notre salut, la sainteté pratique est intimement unie à la jouissance du salut. Ce n'est pas par le pain sans levain qu'un Israélite était sauvé, mais par le sang. Néanmoins, le pain levé l'aurait privé de la communion. De même, le chrétien n'est pas sauvé par sa sainteté pratique, mais par le sang de Christ. Cependant, s'il se permet le mal en pensée, en parole ou en action, il manquera d'une vraie jouissance du salut et d'une vraie communion avec la personne de l'agneau. C'est là, je n'en doute pas, la cause d'une bonne partie de la stérilité spirituelle et du défaut de vraie paix que l'on rencontre parmi les enfants de Dieu. Ils ne pratiquent pas la sainteté, ils ne gardent pas la fête des pains sans levain. Exode 23, verset 15. Le sang est sur le linteau, mais le levain, dans leur maison, les empêche de jouir de la sécurité que procure le sang. Notre tolérance du mal détruit notre communion, bien qu'elle ne rompe pas le lien qui unit éternellement nos âmes à Dieu. Ceux qui appartiennent à l'assemblée de Dieu doivent être saints. Ils ont non seulement été délivrés de leur culpabilité et des conséquences du péché, mais encore de la puissance et de l'amour du péché. Le fait même qu'Israël était délivré par le sang de l'agneau pascal lui imposait la responsabilité d'ôter du milieu de lui le levain. Les Israélites ne pouvaient pas dire « À présent que nous sommes sauvés, nous pouvons nous conduire comme bon nous semble. » S'ils étaient sauvés par grâce, ils l'étaient pour la sainteté. Une âme qui se prévaudrait de la gratuité de la grâce divine et de la perfection de la rédemption qui est en Jésus-Christ pour demeurer dans le péché, Romains 6, verset 1, montrerait clairement par là qu'elle ne comprend ni la grâce ni la rédemption. La grâce ne sauve pas seulement l'âme d'un salut éternel, mais lui communique une nature qui prend plaisir à tout ce qui est de Dieu. Nous sommes rendus participants de la nature divine qui ne peut pas pécher parce qu'elle est née de Dieu. Jean 1, verset 13, 3, versets 3 et 5, 2 Pierre 1, verset 4, 1 Jean 3, verset 9 et 5, verset 18. Marcher dans la puissance de cette nature, c'est en réalité garder la fête des pains sans levain. Il n'y a ni vieux levain, ni levain de malice et de méchanceté, 1 Corinthiens 5, verset 8, dans la nouvelle nature, parce qu'elle est née de Dieu. Dieu est saint, et Dieu est amour, 1 Jean 4, verset 8. Ainsi, il est évident que ce n'est pas pour améliorer notre vieille nature, qui est irrémédiablement mauvaise et corrompue, que nous ôtons le vieux levain, ni non plus pour obtenir la nouvelle nature, mais parce que nous possédons celle-ci. Nous avons la vie, et dans la puissance de cette vie, nous rejetons le mal. Ce n'est que lorsque nous sommes délivrés de notre culpabilité que nous pouvons comprendre et manifester la vraie puissance de la sainteté. Vouloir le faire autrement serait un travail inutile. On ne peut garder la fête des pains sans levain que sous l'abri parfait du sang. Des herbes amères. Il y avait la même convenance morale et une figure également significative dans ce qui devait accompagner le pain sans levain, savoir les herbes amères. Nous ne pouvons pas jouir de la communion aux souffrances de Christ sans nous souvenir de ce qui a rendu ces souffrances nécessaires. Et ce souvenir doit nécessairement produire en nous un esprit mortifié et soumis, disposition que représentent les herbes amères dans la fête de la Pâque. Si l'agneau rôti représente Christ endurant la colère de Dieu dans sa propre personne sur la croix, les herbes amères sont l'expression de la reconnaissance par le croyant de cette vérité que Christ a souffert pour nous. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Il est bon, à cause de la légèreté de nos cœurs, que nous saisissions la profonde signification des herbes amères. Qui peut lire des psaumes tels que les psaumes 6, 22, 38, 69, 88 et 109 sans comprendre en quelque mesure ce que représente le pain sans levain avec les herbes amères? La sainteté pratique de la vie, jointe à une soumission profonde de l'âme, doit découler d'une communion véritable avec les souffrances de Christ, car il est impossible que le mal et la légèreté d'esprit puissent subsister en face de ces souffrances. Mais, demandera-t-on peut-être, l'âme n'éprouve-t-elle pas une joie profonde dans le sentiment que Christ a porté nos péchés, qu'il a vidé jusqu'au fond à notre place la coupe de la juste colère de Dieu? Incontestablement, c'est là le fondement de toute notre joie. Mais pouvons-nous jamais oublier que ce fut pour nos péchés que Christ souffrit? Pouvons-nous perdre de vue cette vérité, puissante pour subjuguer les âmes, que l'agneau de Dieu courba la tête sous le poids de nos transgressions? Non, assurément. Il faut que nous mangions notre agneau avec des herbes amères. Elles ne représentent pas les larmes d'une sentimentalité superficielle, Mais les profondes expériences d'une âme qui saisit avec intelligence et puissance spirituelle la signification et l'effet pratique de la croix. En contemplant la croix, nous y découvrons ce qui efface toute notre iniquité. Et l'âme est remplie ainsi de paix et de joie. Mais la croix met aussi complètement de côté l'homme naturel. Elle est la crucifixion de la chair, la mort du vieil homme. Voyez Romains 6, verset 6, Galates 2, verset 20, et 6, verset 14, Colossiens 2, verset 11. Ceci, dans ses résultats pratiques, contiendra bien des choses amères, nous appellera à nous redoncer nous-mêmes, à mortifier nos membres qui sont sur la terre, Colossiens 3, verset 5, à tenir le moi pour mort au péché, Romains 6, verset 11. Toutes ces choses peuvent paraître terribles à envisager, mais quand on a pénétré dans l'intérieur de la maison, sur la porte de laquelle le sang a été placé, on pense tout différemment. Les herbes mêmes qui auraient paru amères à un Égyptien étaient une partie intégrante de la fête de la délivrance d'Israël. Ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau, qui connaissent la joie de sa communion, peuvent estimer que rejeter le mal et se tenir pour mort est une fête. Pas de reste. Et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en resterait jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Verset 10. Ce commandement nous apprend que la communion de l'assemblée ne devait pas être séparée du sacrifice sur lequel elle était fondée. Nos cœurs doivent se souvenir que toute vraie communion est inséparablement liée à une rédemption accomplie. Croire que l'on puisse avoir communion avec Dieu sur un autre fondement, c'est imaginer que Dieu peut avoir communion avec le mal qui est en nous. Et croire que l'on puisse avoir communion avec l'homme sur un autre fondement, c'est organiser une réunion profane de laquelle ne put résulter autre chose que la confusion et l'iniquité. En un mot, il faut que tout soit fondé sur le sang et inséparablement lié au sang. Telle est la simple signification de l'ordonnance qui enjoignait de manger l'agneau pascal la nuit même dans laquelle le sang était répandu. La communion ne doit pas être séparée de ce qui en est le fondement. Quel beau tableau nous offre l'assemblée d'Israël abritée par le sang, mangeant en paix l'agneau rôti, avec des pains sans levain et des herbes amères. Nulle crainte de la colère de l'Éternel, nulle crainte du jugement qui balayait comme une tempête tout le pays d'Égypte à l'heure de minuit. Tout était profond de paix, derrière les portes aspergées de sang. Les Israélites n'avaient rien à redouter du dehors, et rien dans l'intérieur ne pouvait les troubler, sauf le levain, s'il n'avait pas été soigneusement écarté. Quel tableau pour l'Église! Quel tableau pour le chrétien! Les reins saints et les sandales aux pieds. Mais ce n'est pas là encore tout ce que nous avons à apprendre dans l'ordonnance de la Pâque. Nous avons considéré la position d'Israël et sa nourriture. Considérons maintenant son vêtement. Et vous le mangerez ainsi. Vos reins saints, vos sandales à vos pieds et votre bâton à votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 11. Les Israélites devaient manger la Pâque comme un peuple prêt à laisser derrière lui le pays de la mort, des ténèbres et du jugement, pour marcher en avant vers le pays de la promesse, vers l'héritage qui leur était destiné. Le sang qui les avait préservés du sort des premiers-nés de l'Égypte était aussi le fondement de leur délivrance de la servitude de l'Égypte. Et maintenant, ils devaient se mettre en route et marcher avec Dieu vers le pays découlant de lait et de miel. Ils n'avaient pas encore passé la mer Rouge, c'est vrai. Ils n'avaient pas encore fait le chemin de 3 jours. Cependant, en principe, ils étaient un peuple racheté, un peuple séparé, un peuple pèlerin, un peuple dans l'attente, un peuple dépendant. Et il fallait que leur vêtement tout entier soit en harmonie avec leur position actuelle et avec leur destinée future. Les reins saints annonçaient la séparation de tout ce qui les entourait et montraient qu'ils étaient préparés pour le service. Les pieds chaussés témoignaient qu'ils étaient prêts à quitter la scène présente, tandis que le bâton à la main était l'emblème d'un peuple voyageur s'appuyant sur quelque chose qui était en dehors de lui-même. Plût à Dieu que ces traits paraissent davantage dans chacun des membres de sa famille rachetée. Chers lecteurs chrétiens, occupons-nous de ces choses. 1 Timothée 4, verset 15. Par la grâce, nous avons senti l'efficacité purifiante du sang de Jésus, En conséquence, nous avons le privilège de nous nourrir de sa personne et de nous réjouir dans ses richesses insondables. Éphésiens 3, verset 8. Nous pouvons participer à ses souffrances et être rendus conformes à sa mort. Philippiens 3, verset 10. Montrons-nous donc avec les pains sans levain et les herbes amères, ayons les reins sains, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Qu'on nous voie portant le cachet d'un peuple saint, d'un peuple crucifié, d'un peuple vigilant et actif, d'un peuple marchant manifestement vers la gloire. Et si un étranger veut faire la Pâque ? Nous terminerons ce chapitre en jetant un regard sur les versets 43 à 49. Ces versets nous apprennent que, tandis que c'était le privilège de tout vrai Israélite de manger la Pâque, aucun étranger incirconcis ne devait y participer. Aucun étranger n'en mangera. Toute l'assemblée d'Israël la fera. Il fallait la circoncision avant qu'on pût manger la Pâque. En d'autres termes, il faut que notre nature ait passé sous la sentence de mort avant que nous puissions nous nourrir de Christ d'une manière intelligente, soit comme fondement de paix, soit comme centre d'unité. La croix est l'antitype de la circoncision, ce signe divin de l'alliance de Dieu avec les Juifs et du dépouillement de la chair. Voir Colossiens 2, versets 11 et 12. Pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait être circoncis, et la circoncision a sa réalité en Christ. Les chrétiens, rendus participants de l'efficacité de sa mort par la puissance de la vie qui est en lui, se tiennent pour morts. Ils ont dépouillé ce corps du péché par la foi. Ils sont crucifiés avec Christ. Mais la puissance de Dieu lui-même, telle qu'elle a agi en Christ, opère en eux pour leur donner une nouvelle vie en Christ. Et si un étranger séjourne chez toi et veut faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui est à lui soit circoncis. Et alors il s'approchera pour la faire et sera comme l'Israélite de naissance, mais aucun incirconcis n'en mangera. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. L'ordonnance de la circoncision constituait la grande ligne de démarcation entre Israël, peuple de Dieu, et toutes les nations de la terre. Et la croix du Seigneur Jésus forme la ligne de séparation entre l'Église et le monde. Quels qu'aient pu être les avantages personnels ou la position d'un homme, jusqu'à ce qu'il se soit soumis à l'opération de la circoncision, il ne pouvait avoir aucune part avec Israël. De même maintenant, on ne peut avoir aucune part aux joies des rachetés de Dieu si ce n'est par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette croix abat toutes les prétentions de l'homme, renverse toutes les distinctions et unit tous les rachetés en une sainte congrégation d'adorateurs lavés dans le sang. La croix constitue une barrière si élevée, un mur de défense si impénétrable, qu'aucun élément de l'ancienne création ne peut le traverser pour venir se mêler à la nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles, et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Vous n'en casserez pas un os. Non seulement la séparation d'Israël d'avec tous les étrangers était strictement maintenue dans l'institution de la Pâque, mais encore l'unité d'Israël y était clairement établie en figure. Elle sera mangée dans une même maison. Tu n'emporteras point de sa chair hors de la maison, et vous n'en casserez pas un os. Verset 46. C'est un beau type de ce qui constitue un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4, verset 4. L'Église de Dieu est une. Dieu la voit telle et la manifestera comme telle à la vue de tous les êtres créés, en dépit de tout ce qui a été fait pour mettre obstacle à cette sainte unité. Que Dieu en soit béni. L'unité de son Église est aussi bien sous sa garde que l'a été le corps de son bien-aimé sur la croix. Elle est tout aussi bien sous sa garde que la justification, l'acceptation et la sécurité éternelle des rachetés. Malgré la violence et la dureté de cœur des soldats romains, Dieu a su accomplir l'Écriture qui disait, touchant le Christ, « Pas un de ses os ne sera cassé. » Et encore, « Il garde tous ses os. Pas un d'eux n'est cassé. » Verset 46, Nombre 9, verset 12, Psaume 34, verset 20, Jean 19, verset 36. Et pareillement, en dépit de toutes les influences hostiles qui ont été mises en jeu de siècle en siècle, Dieu garde son Église. Le corps de Christ est un et restera un. Voir Matthieu 16, verset 18, Jean 11, verset 52, 1 Corinthiens 1, verset 12 et 12, verset 4 à 27, Éphésiens 1, verset 22 et 23, 2, verset 14 à 22, 4, verset 3 à 16, 5, verset 22 à 32, Apocalypse 22, verset 17. Il y a un seul corps et un seul esprit, et cela, ici-bas sur la terre. Heureux sont ceux qui ont reçu la foi pour reconnaître cette précieuse vérité et la fidélité pour la pratiquer dans ces derniers jours, malgré les difficultés presque insurmontables qu'ils rencontreront dans leur sentier. Dieu reconnaîtra et honorera ceux qui seront ainsi fidèles.